Il était une fois, une émission de Cato Bell, Vincent Delcor.
Mais messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver au nom de Cato Bell. Ce soir, on va discuter d'extrémisme. Dans quelques semaines, vous le savez, le 9 juin, nous serons appelés à voter un triple scrutin régional, fédéral, européen, qui sera suivi en octobre par un scrutin communal. Et une question qui se pose déjà et de plus en plus, allons-nous connaître un nouveau dimanche noir ? Dimanche noir, c'est cette expression qui avait été utilisée pour qualifier le scrutin du 24 novembre 1991. Ce jour-là, le Vlaams Blok réalise une percée électorale en obtenant pas moins de 12 sièges à la Chambre. À l'époque, c'était un record pour un parti qui n'avait jusque-là pas obtenu plus de 2 voix. Aujourd'hui, les sondages électoraux annoncent une nouvelle victoire pour le Vlaams Belang, successeur du Vlaams Blok. Une victoire qui pourrait être bien plus éclatante, et cela dans un contexte où de nombreux pays ont connu ces derniers mois, ces dernières années, d'importantes victoires de l'extrême droite, qu'on pense à l'Argentine, aux Pays-Bas, aux États-Unis et bien d'autres. Alors, est-ce qu'il est possible de combattre cette tendance de fond ? Comment faire ? Voilà quelques questions qui sont posées dans le numéro de printemps de la revue En Question, un numéro qui vient de sortir et qui donne la parole à une série d'experts du sujet. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités. Frédéric Rottier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, directeur du Centre AVEC, un centre d'analyse sociale et œuvre jésuite qui se trouve à Bruxelles et qui édite la revue En Question. Et puis aussi avec moi, Simon-Pierre de Montpellier, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous êtes le rédacteur en chef de la revue En Question et vous avez coordonné ce numéro. Alors on va commencer par cette question qui est celle de votre titre. Est-ce qu'on va vers un nouveau dimanche noir ? Vos avis sur le sujet, Simon-Pierre ?
Pour contextualiser, le choix de dimanche noir, ça fait bien référence au succès de l'extrême droite en Flandre en 91, en 2004 et même récemment en 2019. Et là, les prochains sondages montrent en effet une percée de l'extrême droite du côté flamand, qui n'est pas, d'ailleurs pas un cas isolé puisque ça concerne beaucoup de pays européens. Et donc, on peut craindre en effet une percée de l'extrême droite lors des prochaines élections.
C'est pour vous aussi, Frédéric Rottier, quelque chose qui est relativement inévitable à ce stade ?
Oui, et c'est ce qu'on observe en fait internationalement. Donc il y aura également les élections européennes. Et ce qu'on voit, c'est que tant par l'introduction de nouveaux partis ou de partis qui augmentent, qui ont le vent en poupe, mais également par une idéologie discriminatoire, franchement discriminatoire au sein des partis existants. On voit quelque chose qui monte, on le voit actuellement en Angleterre, on le voit à beaucoup d'endroits aussi. Donc effectivement, il faut regarder les nouveaux partis, ceux qu'on qualifie parfois d'extrême droite, mais il faut peut-être également regarder les positions extrémistes qu'on retrouve de plus en plus banalisées au sein d'autres partis.
Mmh. Cette montée des extrêmes, de l'extrême droite en particulier, pas seulement dans les partis proprement à l'extrême droite de l'échiquier politique, mais cette montée en puissance, vous l'expliquez comment ? C'est le contexte, c'est l'air du temps, c'est l'idée que ce monde est en crise. Comment est-ce qu'on pourrait affiner un petit peu les explications ?
Il y a tout d'abord des tendances de fond au sein de la société qui peuvent expliquer qu'on puisse voter pour des courants contestataires, extrémistes, qui sont par exemple la hausse des inégalités, qui est documenté au sein de nos sociétés, qui est une perte de confiance envers le pouvoir politique, démocratique, toute une série de tendances de fond. Et puis, il y a une instrumentalisation des peurs, de la colère, qui est une conséquence de ces préoccupations légitimes. Donc, une instrumentalisation par des personnalités, des partis populistes qui vont souffler sur les braises et donc alimenter ce sentiment. Voilà quelques explications courantes.
Donc la faute, entre guillemets, est partagée. Il y a à la fois les citoyens qui ont une colère et qui
l'expriment
parfois par le vote. Mm-hmm. Et puis il y a aussi certains politiciens qui ne font pas grand-chose pour rencontrer cette colère.
Je dirais, en tout cas, certains. Je ne mettrai pas tous les politiques dans le même panier, mais je pense que certains politiciens alimente cette désillusion, cette colère. Nous, on a envie évidemment de les encourager à se mettre ensemble, à rechercher ensemble le bien commun, à trouver des solutions aux préoccupations légitimes des citoyens. Donc je pense qu'il y en a qui sincèrement essayent de rechercher ce bien commun. Oui.
Oui, je pense qu'on a beau être au début d'un nouveau millénaire, on a un esprit de fin de siècle. On a l'idée que la crise, elle est partout. La crise écologique, on en parle bien souvent et elle crée soit de la peur, de l'angoisse, ou alors un rejet, comme cette idée qu'il faut continuer et ne pas écouter cette voix-là de quelle est la crise qui est là. Donc il y a d'une part vraiment cette division dans la société qui est alimentée par des crises qui nous arrivent sur le plan écologique, sur le plan social, les inégalités qui montent, sur le plan de la globalisation qui elle fait peur, qui nous réduit à pas grand-chose dans un ensemble. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une déconstruction qui est là et qui est également alimentée par l'avènement de l'ère numérique. Dans l'ère numérique, il y a quand même une ouverture qui est là, que chacun puisse s'exprimer. Mais puisque chacun peut s'exprimer, chacun s'exprime surtout à sa bulle. Mmh. Et donc, il y a un entre-soi qui se crée là et qui va, quelque part, augmenter nos tendances à discriminer, qui va empêcher nos remises en question. Parce que finalement, quand je parle sur les réseaux sociaux, ben je parle avec des personnes qui sont plus ou moins de mon camp, de mon milieu, de mes opinions, de mes convictions. Eh bien, je vais être moins contredit, je vais être moins amené à changer radicalement ma position. Ou alors, quand je serai en communication avec quelqu'un qui n'est pas du tout de ces mêmes valeurs-là, eh ben, je vais peut-être me permettre une radicalité, une agressivité parfois qui est là. Mmh. Et donc, je pense que dans un ensemble, on voit vraiment que la cohésion sociale, elle est mise à mal aujourd'hui. Mmh.
Pour rester sur la question des réseaux sociaux, c'est un peu paradoxal, puisque d'une part, ça permet au départ à chacune, à chacun de pouvoir s'exprimer, et ça c'est plutôt une bonne chose, qui va dans le sens de la démocratie, mais vous observez que finalement ça favorise non seulement les extrêmes, et qu'en plus de ça, ça favorise cette émergence de bulles, et donc ça empêche des vraies rencontres, c'est ça Frédéric Rottier?
Oui, il y a la division qui s'introduit plus clairement, et alors il y a également parfois une anonymisation qu'on voit plus largement dans la société. Je pense qu'auparavant, il y avait quand même une plus grande place aux forces intermédiaires, aux corps intermédiaires de la société. Et donc, aujourd'hui, je suis jeune père de famille, eh ben, je trouve ça super important que mes enfants puissent également grandir dans des intermédiaires. Et de même, moi, comme citoyen, que je puisse avoir des intermédiaires.
C'est quoi ça? Vous pouvez donner quelques exemples?
Un mouvement de jeunesse, par exemple. Un mouvement de jeunesse, c'est quelque chose qui va, quelque part... former une micro-bulle de la société, eh ben, ces mouvements de jeunesse dans lesquels nous engageons nos enfants, est-ce qu'ils permettent encore suffisamment de rencontrer la différence? Et peut-être que, évidemment, il n'est pas possible de rencontrer tout le monde partout en même temps. La mixité parfaite, elle n'existe nulle part. Mais peut-être, dans nos engagements que nous avons à gauche, à droite, veiller à avoir un équilibre. Et chacun peut mettre les accents divers, mais essayez de mettre des accents divers dans vos engagements. Je trouve ça super important.
On essaie de comprendre pourquoi cette extrême droite avait le vent en poupe. Peut-être s'arrêter quand même un petit peu sur ce qu'est cette extrême droite. Au fond, comment la décrire? Parfois, c'est utilisé plus sous la forme d'insultes ou d'accusations que sous la forme d'une vraie analyse. Simon Pierre, est-ce que vous pourriez nous définir quelles sont les grandes caractéristiques de cette extrême droite?
Oui, dans ce dossier d'en question, on a pris une définition assez englobante de l'extrême droite parce qu'elle peut regrouper différents courants qu'on peut appeler néo ou post-fasciste, mais aussi populiste de droite radicale, nationaliste, autoritaire. Donc on a voulu avoir un concept plutôt parapluie et qui se caractérise de quatre manières principales. Tout d'abord, c'est une conception de la société profondément inégalitaire. Ça peut être... sur base de différences d'origine, de culture, de genre, d'orientation sexuelle.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître qu'il y a des inégalités, qu'on ne doit pas tous être traités de la même manière?
Oui, qu'il y a des différences et s'arrêter à ce constat et qu'on ne doit pas forcément chercher à arriver à une société qui cherche une égalité.
Qu'on ne doit pas lutter contre
les
inégalités.
Exactement, oui, qu'on peut se contenter de certaines injustices, certaines inégalités. Il y a une deuxième caractéristique, c'est le nationalisme, qui peut être soit régional, soit communautaire, donc associé à un territoire ou à une communauté, avec derrière une idée d'homogénéité de la société, de nouveau sur base, que ce soit de caractéristiques d'origine physique ou autre. Une autre caractéristique, c'est l'obsession pour la sécurité absolue. C'est de considérer, voilà, de mettre vraiment la sécurité toujours comme une priorité, une obsession, de vouloir mettre comme priorité l'augmentation des moyens de répression, de contrôle, par exemple le contrôle aux frontières, la détention de personnes étrangères sur le territoire.
Et donc un investissement massif,
voilà,
dans les outils policiers, militaires, les instruments, les caméras dans les rues, des choses comme ça.
Tout à fait, oui, au détriment de libertés fondamentales, avec souvent une stigmatisation d'une certaine population qui servirait de bouc émissaire, et on pense en particulier à une population étrangère.
Oui, donc ceux qui ne font pas précisément partie de ce groupe
ethnique
national.
Voilà, exactement. Enfin, présumé, en tout cas, homogène. Et enfin, une quatrième caractéristique, c'est celle du radicalisme. On observe dans différents courants d'extrême droite ce point commun d'avoir un programme d'action qui soit radical et qui mette en tension des principes démocratiques de nos démocraties contemporaines, qui sont l'état de droit, les droits humains fondamentaux, les droits des minorités, justement, et aussi un équilibre des pouvoirs entre exécutif, judiciaire et législatif, avec une tendance à vouloir concentrer le pouvoir chez l'exécutif. Mmh. Voilà, donc voilà une quatrième caractéristique qui permet d'englober toute une série d'idées d'extrême droite.
Alors, si on poursuit la réflexion, justement, imaginez un État qui serait dirigé par l'extrême droite, ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'on pourrait un petit peu raconter, dessiner à quoi ressemblerait une région ou un État ou un continent qui serait dominé par cette extrême droite? À quoi est-ce que ça ressemblerait?
Ben, ça peut commencer, comme dans certains États qui existent réellement, par détricoter justement le pouvoir judiciaire, détricoter aussi la neutralité de ce pouvoir judiciaire en plaçant des juges selon une orientation politique. Ce serait aussi détricoter des médias qui ne correspondraient pas à une vision du pouvoir ou du parti en place. C'est davantage de contrôle aux frontières, une politique immigratoire très restrictive, des discriminations dans les services sociaux, par exemple, accordés aux étrangers. C'était d'ailleurs un des points de la loi immigration en France. Donc, on voit que les idées d'extrême droite percolent aussi auprès de gouvernements qui ne se disent pas ou qui ne sont pas vus comme des partis ou des gouvernements d'extrême droite. Donc, on voit, comme disait Frédéric, que ces idées percolent un petit peu partout.
Quand on pense extrême droite, on pense assez spontanément à Hitler, aux années 30. Est-ce qu'il faut nécessairement aller jusque-là ou non? Finalement, ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà, de manière peut-être plus fine, plus subtile, mais quand même, avec certaine importance, des mécanismes qui sont à l'œuvre.
Oui, non, il faut pas invoquer le point Godwin, sinon, on empêche de réfléchir sur l'extrême droite. En effet, ça ne correspond pas à la vision d'Hitler, du nazisme, etc. Aujourd'hui, il y a eu toutes des stratégies de dédiabolisation avec un rajeunissement des cadres, avec un message plus lissé, et en fait, une ambiguïté. En fait, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'identifier des idées d'extrême droite parce qu'on n'invoque plus des races, on parle de culture, de religion, on n'invoque plus... Enfin, même des partis d'extrême droite vont mobiliser le concept de démocratie. Mais si on creuse un petit peu, on voit très bien que c'est une vision nationaliste de la démocratie et pas une vision ouverte qui protège les minorités, etc. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, à identifier. Mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Et c'est ça l'intérêt de ce dossier, c'est vraiment d'aller identifier un petit peu toutes ces stratégies de dédiabolisation, normalisation, banalisation de l'extrême droite pour essayer de l'identifier. Mais non, ça ne ressemble plus exactement à l'extrême droite d'il y a 60 ans.
Alors, question clé, évidemment, et vous y travaillez, hein, comment est-ce qu'on va lutter contre cette extrême droite? Vous disiez tout à l'heure que finalement, vous étiez relativement pessimiste, hein, par rapport au scrutin qui nous attend. Et en même temps, le pessimisme n'empêche pas l'action, et le centre avec lui-même est engagé, hein, sur le terrain de l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette extrême? Frédéric Licotier?
Les partis d'extrême droite, je ne pense pas que du côté francophone, on doive s'attendre à une extrême percée à ce niveau-là. Donc, quelque part, on peut se dire « Ah, chouette, tout va bien ». Non. Nous vivons quand même dans un pays fédéral, par ailleurs, et la Flandre est quand même la principale composante de la fédération belge. Et là, y a quand même un rôle qu'on peut jouer, nous, en tant que francophones. Je dirais, d'une part, et c'est peut-être un message aussi au secteur médiatique de manière générale, faire attention aux éléments de langage. Éviter les discours qui disent « la Flandre veut ». Qu'est-ce que ça veut dire « la Flandre veut » ? Existe-t-il une seule Flandre ou « les Flamands sont » hein, on entend souvent « les Wallons sont ». Ben, on s'insurge contre ça, mais est-ce que nous-mêmes, nous ne le disons jamais, là, les Flamands sont. Donc voilà, il y a des questions où toujours introduire de la pluralité quand on parle des autres. De même, il faut peut-être s'intéresser un petit peu plus à la culture flamande. Quand on voit le manque de culture quand même vraiment très fort, je suis moi-même bilingue, et j'ai vécu une bonne partie de ma vie en Flandre. Nous aimons bien les Flamands quand ils chantent en anglais. Quand ils chantent en français. Mais avons-nous un jour écouté sur les RTBF, non pas pour une raison particulière, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé spécifiquement, mais avons-nous déjà entendu quelqu'un chanter en néerlandais ? Peut-être Jacques Brel qui chante son Plébéi, mais à part ça, pas beaucoup. Donc il y a peut-être quelque chose à s'intéresser, et petit appel au pied aux programmateurs radio, par exemple. Mais de même, il faudrait aussi faire attention à regarder comment est-ce que nous polarisons. De même que nous sommes tous quelque part un peu racistes, hein. Nous avons tous quelque part une petite arrière-pensée raciste, ça peut nous arriver ou ça nous est déjà arrivé peut-être dans notre enfance, mais en tout cas chacun peut reconnaître des éléments où y a quelque chose qui de temps en temps dévie dans ce qu'on a pu un jour penser. Et ben, de même, il faudrait peut-être songer que polariser ça n'aide pas et quand on passe de la polarisation qu'on voit habituellement en politique, qui est la polarisation de se dire « oh ». De tels partis flamands n'attendaient jamais rien de bon. Le pas suivant, c'est la polarisation affective. Et ça signifie qu'on va non seulement avoir en horreur tel parti, mais on va également avoir en horreur tel citoyen qui représente un petit peu symboliquement ce parti-là. Et là, ça devient très dangereux. Là, on est vraiment dans le détricotage de la société, du vivre ensemble dans tout ça. Donc, vivre avec nos concitoyens... accepter plus qu'actuellement de prendre part à cette confrontation à la différence.
Et donc
ça,
effectivement, aller dialoguer avec les personnes qui ne pensent pas comme nous, mais prenons le cas concret, quelqu'un qui voterait bien volontiers pour l'extrême droite, est-ce qu'il y a moyen de le convaincre de ne pas voter pour l'extrême droite, vous pensez ?
Je ne pense pas qu'il faille le convaincre, je pense qu'il faille instiller le doute. Il faut l'amener à réfléchir en lui posant des questions. Voilà. Es-tu bien sûr que quand tu dis qu'on a besoin d'autorité, es-tu bien sûr que c'est ce que nous voulons vraiment ? Est-ce que c'est cohérent jusqu'au bout ? Est-ce que l'état de droit ne serait pas un jour affecté ? Est-ce que les inégalités qui vont être derrière telle manière de faire, est-ce que c'est bien ce que nous souhaitons ? Imaginons que ça se passe dans l'autre sens. Voilà. C'est pas dire ce que vous pensez là est mauvais, c'est d'instiller le doute dans les raisonnements ou alors montrer qu'il y a quelque part, volontairement, un retrait. Parce que souvent, on entend des demi-raisonnements. Eh bien, montrer, voilà, là, il y a un demi-raisonnement. Mm-hmm. Ça vaudrait la peine de le poursuivre.
Vous évoquez la question du raisonnement. Est-ce que voter, c'est quelque chose de rationnel qui se fait avec la tête, dans la tête, seulement ? Ou est-ce qu'il n'y a pas, justement, la question des émotions ? Vous l'évoquiez tout à l'heure, Simon-Pierre de Montpellier, la question de la colère, hein, qui peut expliquer que des citoyens votent pour des partis extrêmes. Comment est-ce qu'on gère cette dimension-là ? Si le vote n'est pas seulement rationnel, mais comporte aussi une dimension affective, quel levier utiliser ?
Je dirais d'abord ne pas jouer sur le même terrain que l'extrême droite. Donc ne pas alimenter la peur, la colère, etc., mais plutôt chercher à susciter un avenir désirable, qui est aussi une manière d'être sur le terrain des émotions, mais d'une manière différente. Donc, en effet, on ne vote pas qu'avec sa tête, on vote aussi avec son cœur. Et donc, voilà, je pense que c'est fondamental que les autres courants politiques proposent une vision de société qui soit tout autre et désirable pour pouvoir... susciter de l'enthousiasme dans son vote et dans son engagement, oui.
Oui, peut-être qu'en politique, mais aussi dans notre vie courante, on a intérêt à se rappeler qu'est-ce que c'est que la communication non-violente. Parce que la communication non-violente, c'est évidemment une série de préceptes, comment communiquer, hein. Vous pouvez vous former là-dedans. Mais derrière ces préceptes, il y a des principes. Il y a la bienveillance. Il y a l'authenticité acceptée de l'autre qui soit aussi authentique, accepter qu'il y ait de temps en temps un débordement et ne pas prendre tout comme une opposition à soi-même ou de prendre les choses personnellement. Donc, je pense que dans notre culture de l'immédiateté, on laisse place à cette émotivité qui, quelque part, de temps en temps, avant on disait il fallait tourner cette fois sa langue dans sa bouche ou aller prendre l'air. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui monte en nous, eh ben, ça aujourd'hui, on le fait beaucoup moins. Et donc, être responsable en politique, c'est également accepter de temps en temps que se situer dans un processus et non pas dans quelque chose de direct. Voilà, accepter qu'il y ait des lendemains. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à un accord, dans le passé, ça arrivait, et on avance. Ou si aujourd'hui, il se passe un fait de société, c'est pas demain qu'il faut absolument la solution à cela. Il faut s'engager dans des processus.
Et ça, on comprend de ce point de vue-là à quel point la question des réseaux sociaux modifie et complexifie cette dimension temps, ne pas réagir dans l'instant. Oui. Est-ce que le monde des réseaux sociaux permet quand même cette façon d'agir où finalement on est tous dedans parce qu'on ne peut pas y échapper. Est-ce que les réseaux sociaux ne nous contraignent pas à cette urgence permanente et donc à cette montée des extrêmes?
Oui, on peut dire ça sur les réseaux sociaux, on peut dire ça sur le système politique également, où l'idée d'avoir chaque fois le court terme qui prend le dessus sur le long terme vient également modifier la manière de se comporter. Et donc oui, nous sommes pris dans des manières de faire, mais il doit y avoir moyen de dépasser ça. Et donc oui, il faut créer, de temps en temps, il faut également prendre distance par rapport au digital, mais il faut également utiliser le digital comme une force. Et donc, effectivement, le temps doit toujours être supérieur à l'espace. C'est ce que dit le pape François dans l'encyclique Laudato aussi. Il y a quelque chose de très intéressant derrière cette idée-là, c'est qu'il s'agit d'initier des processus et instiller du dialogue. C'est ça qui va permettre le vrai changement de fond, plutôt que d'envahir tous les lieux par une multiplicité de clics ou par une multiplicité une augmentation de la présence directe.
Oui. Vous évoquez le pape François et dans ce numéro de la revue en question, effectivement, il y a aussi question de sens, de spiritualité. C'est une revue de sens et de spiritualité, précisément. Le Centre AVEC est une organisation chrétienne, à la fois reconnue comme éducation permanente, mais également comme œuvre jésuite. Le sens, la religion, la spiritualité, il y a une place pour tout cela dans la politique. Et est-ce que ça peut être aussi une façon de lutter contre les extrêmes, vous pensez, Simon-Pierre ?
Oui, tout à fait. Un des articles dans ce dossier aborde les ressources chrétiennes pour lutter contre l'extrême droite, et notamment avec cette idée de mener un combat spirituel, un combat intérieur. Et j'aime beaucoup cette idée de se dire que l'extrême droite ou l'extrémisme, ce n'est pas juste quelque chose de lointain, en dehors de nous, ce n'est pas juste eux, c'est aussi en nous, on a tous nos zones d'ombre, nos parts d'ombre. Et donc, ça fait aussi partie d'une conversion intérieure. Ce n'est pas juste chercher la transformation sociétale, c'est aussi faire un travail de conversion intérieure en liant toujours les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Et aussi une attitude, je dirais. Et à cet égard, j'aime beaucoup cette citation d'Emmanuel Mounier qui dit qu'il faut être impitoyable avec les positions, mais toujours humain avec les hommes et les femmes. Et je trouve que ça, c'est une... C'est une manière, pas uniquement chrétienne, mais en tout cas, c'est une manière assez inspirante de se comporter vis-à-vis de personnes qui véhiculent des idées d'extrême droite.
Emmanuel Mounier est considéré comme un des pères du personnalisme chrétien, un grand penseur chrétien après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Fondamentalement, être chrétien, Frédéric Rottier, c'est lutter contre les extrêmes, est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Non, je ne pense pas. Être chrétien, il y a des manières diverses d'être chrétien. Fondamentalement, si vous me demandez à moi ma manière d'être chrétien, il y a une phrase qui me revient à chaque fois, c'est « chercher d'abord son royaume, le royaume et sa justice ». Donc, c'est de lier inextricablement ce qui concerne la foi, le royaume, et ce qui concerne notre manière d'être en société et les critères d'être en société ensemble, la justice sociale. Donc voilà, je pense que là, il y a quelque chose, et si on relie ça au thème d'aujourd'hui, c'est la montée des pensées de discrimination. Souvent, on remarque quand même qu'un certain camp de la droite radicale, très très radicale, va parler du christianisme, va parler des chrétiens, ou va même, comme le, je pense, c'est Zemmour en France qui le mentionnait, parler de ne pas aimer trop le Christ, mais aimer
l'Église.
Voilà, ça devient quelque chose de très identitaire et non plus aller voir quel est finalement Jésus-Christ dans ma vie ou quel est le sens social et le sens spirituel profond du message de Jésus.
Pour vous, Simon-Pierre de Montpellier, vous êtes aussi chrétien. Pour vous, être chrétien le 9 juin prochain, ce sera aller voter et ce sera ne pas voter pour un parti d'extrême droite, c'est évident ?
Oui, à mon sens, c'est assez évident. Oui, le christianisme me semble incompatible. En tout cas, le message du Christ, message d'amour, de paix, de justice, de charité, d'ouverture à l'autre, aux différents, à l'étranger, etc., me semble incompatible avec une idéologie inégalitaire, sécuritaire, à certains égards violente. Ça me semble assez clair, oui.
Et parallèlement, aller voter, ça c'est un acte important pour les chrétiens, on peut dire.
Oui, tout à fait, contribuer au royaume, ça commence ici, donc ça commence par un investissement dans la cité, dans la vie politique. Voter est une manière de le faire. J'aime aussi à rappeler que ce n'est pas l'essentiel de la politique, qu'on peut s'engager de plein d'autres manières entre les 5 ans des différentes élections, mais en tout cas, c'est un geste important, oui.
Vers un nouveau dimanche noir. C'est le titre du dossier de la revue En Question qui vient de sortir, un numéro qu'on peut se procurer via votre site internet, un centreavec.be. On peut aussi appeler au 02 738 08 28. Simon-Pierre de Montpellier et Frédéric Retier, merci d'avoir été à nos côtés. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Une émission évidemment à retrouver comme toujours en podcast sur catobel.be et sur Ovio. À très bientôt.